Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les débats sont plus polarisés sur les réseaux sociaux? De plein de manières. La première, c'est que souvent les personnes qui commentent sont les personnes qui sont les plus polarisées. Il faut savoir que la majorité écrasante des utilisateurs des réseaux sociaux ne poste rien. J'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on était aux alentours des 70-80%, je pense même plus, des utilisateurs actifs. Hein. On parle pas de gens qui ont créé des comptes et qui vont jamais. D'utilisateurs et d'utilisatrices actives qui se connectent au moins une fois par semaine ne postent rien du tout. Ils sont là à scroller. Donc il y a déjà un biais de sélection énorme entre les 3-4 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Les personnes qui commentent sont minoritaires. Dans cette minorité qui commente, qui interagit, souvent les personnes qui sont les plus polarisées, c'est celles qui commentent le plus. Donc elles vont aller sur plein de posts et répéter. Parfois même c'est du copier-coller. Ça m'est déjà arrivé de trouver des personnes qui vont poster le même commentaire sur plein de plateformes, sur le même sujet, sur différents endroits. C'est ceux qui vont avoir souvent le plus de réponses. Et donc il y a plus de visibilité. Ça ne veut pas dire que les discussions modérées n'ont pas lieu. Il y a des pages qui sont très bien gérées aussi, où les personnes sont assez respectueuses, mais il y a une sorte de biais de sélection, de confirmation, de science qui met en avant les débats les plus polarisés. Et puis il y a l'algorithme qui parfois aussi vous montre des sujets sur lesquels vous allez avoir plus tendance, donc qui va vous trigger, comme on dit, donc vous allez avoir plus tendance à vouloir commenter dessus.
Une différence de la vie en ligne par rapport à la vie de tous les jours et que nous sommes confrontés à beaucoup plus de gens, à beaucoup plus d'informations, à beaucoup plus de médias. On pourrait dire que c'est une bonne chose, en fait, on va être confronté à des idées contradictoires. Et malheureusement, en fait, souvent, les personnes ou les idées de l'autre bord politique, par exemple, auxquelles nous sommes confrontés, sont les plus extrêmes, les plus outrageantes, les plus idiotes parfois. Et ce qui va ensuite créer une forme donc, de polarisation où chacun va se mettre à vraiment détester les autres, en pensant qu'ils sont représentés par les personnes les plus extrêmes de l'autre groupe, alors qu'en fait, les gens sont beaucoup plus similaires que ce qu'on pense.
Il y a des études qui ont montré que la polarisation a commencé bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux, on peut accélérer un truc qui a démarré avant. Il y a une étude, par exemple, qui a étudié la dégradation du discours politique, où on est passé d'un discours politique où le but, c'était de présenter des idées, des politiques publiques, etc., à un discours politique où le but, c'est de persuader qu'on est les bonnes personnes pour faire le taf sans vraiment parler de ce qu'on veut faire, et qui a été amorcé au début du XXe siècle. Et je pense que l'explication de la polarisation, et donc ça commence souvent par la classe politique, et c'est là où ça se diffuse jusqu'à la population générale. On a souvent tendance à croire que le peuple se polarise et après ça polarise la classe politique, mais dans ce cas-là, évidemment, c'est des boucles de rétroaction, mais on pense que la polarisation politique est en train aussi d'influencer énormément le peuple. Et quand je parle de polarisation, c'est pas genre juste extrême gauche, extrême droite. Ça peut se polariser dans différents partis. Des partis dits centristes peuvent se dire on veut plus jamais faire d'alliance avec la gauche ou avec la droite. Ça peut se polariser un peu, c'est pas juste sur une sorte de continuum, ça peut se polariser vraiment dans tous les sens, plutôt comme un cercle que comme une sorte de ligne. Et il y a plein de facteurs qui peuvent aussi expliquer ça. Le fait que de plus en plus de politiques sont plus intéressés par se faire réélire, parce que c'est un peu les règles du jeu. C'est pas que eux, ils ont un truc inhérent en eux qui est bon ou mauvais, c'est juste qu'on les met dans un système où la règle du jeu les incite à ne pas devoir faire de compromis, parce que cela risque de perdre leur poste. Et donc, c'est vraiment une sorte de pression contextuelle qui fait que ça ressort les pires choses pour les animaux sociaux collaboratifs que nous sommes supposés être.
Women must earn less than men, because they are weaker.
Ce sont des constructions sociales et culturelles et qui sont transmises par la société, par différents canaux plus ou moins subtils.
Ce serait un peu bizarre de faire des filles en garagiste.
Les parents, l'école, la télévision, même les ouvrages scolaires transmettent encore aujourd'hui les stéréotypes sociaux et notamment les stéréotypes de genre.
On peut se dire, allez, on est en train de s'en débarrasser. Erreur totale, erreur.
Alors, il y a plein de facteurs qui expliquent l'adhésion de personnes à ces idées. La première, c'est ce qu'on appelle le biais du faux consensus, c'est-à-dire de croire que ce qui est devenu évident et acquis pour nous l'est pour tout le monde. On a tendance à croire, bah, évidemment, que les hommes et les femmes doivent être égales, évidemment qu'il n'y a pas égaux, évidemment que les races humaines n'existent pas, etc. Mais c'est évident pour nous. Et on est des animaux sociaux, on crée des sortes de groupes sociaux qui ont leurs propres valeurs. Et on a tendance, parce qu'on interagit souvent avec des gens qui sont dans nos groupes sociaux, de croire que les autres groupes sociaux sont minoritaires ou n'existent pas. Et je pense que parfois, très souvent, on se trompe. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est de réaliser qu'on se trompe. Les exemples les plus flagrants pour quelqu'un qui est, par exemple, progressiste, c'est le fait que le Brexit gagne. En se disant, et c'est là où on a réalisé qu'il y a tout un pan de la société qui ne parle pas avec tout un autre pan de la société. L'élection de Donald Trump, la pensée de certains tech bros, de la Silicon Valley qui disent bah oui, il faut écraser certaines personnes, que des gens qui meurent, c'est pas très grave, etc. On peut penser à Peter Thiel, à plein de gens qui gravitent autour de cette partie. Et donc, ces gens ont aussi souvent une sorte de force de frappe assez importante, de la même manière que les progressistes l'ont eu à une certaine période. C'est-à-dire, on ne peut pas penser la diffusion des idées dans une société sans penser aussi les rapports de force et les moyens qui sont disponibles. Et effectivement, sur les dernières quelques décennies, les idéologies plutôt progressistes, qu'on appelle progressistes, l'égalité des droits, lutter contre l'homophobie, lutter contre le racisme, avoir des sociétés plus justes, être plus équitables, etc., étaient des idéaux qui avaient les moyens pour se diffuser dans la société. Et il se trouve qu'aujourd'hui, des personnes qu'on qualifie donc plutôt d'idéologie plus réactionnaire, de se dire en fait non, tous les humains ne se valent pas, qu'il y a des différences significatives et fonctionnelles entre les hommes et les femmes, qui font qu'il y a des rôles sociaux qu'on devrait remettre sur la table, qu'il y a des cultures qui sont plus riches que d'autres cultures et donc qu'elles ont le droit de domination sur ces autres cultures et quelque chose qu'on devrait pouvoir dire, qui aujourd'hui ont beaucoup de moyens à nouveau de le faire. On a vu le changement drastique de la timeline sur Twitter quand c'est devenu X racheté par Elon Musk, c'est des choses qui sont quantifiées. Et donc tout ça fait que ces idées ont plus de moyens de se diffuser. Et plus une idée se diffuse, ne serait-ce que par effet de répétition simple, elle va trouver une sorte de public qui va y adhérer.
En effet, notre environnement est extrêmement complexe et nos ressources cognitives sont néanmoins limitées. Or, les stéréotypes nous permettent de simplifier efficacement notre environnement en attribuant des caractéristiques similaires à des groupes. Les hommes tous les mêmes, les femmes toutes les mêmes, les jeunes tous les mêmes, les âgés tous les mêmes. Donc, ils nous permettent de simplifier notre environnement de façon assez efficace.
On a des idées qu'on appelle des idées performatives, qui impactent notre performance. On a des idées qu'on pourrait qualifier comme ça d'idées inertes. C'est des idées qui, si elles sont modifiées, ça ne change pas grand-chose à nos vies. Je ne sais pas si demain, on me dit que les anneaux de Saturne, en fait, c'était une illusion d'optique et qu'ils n'existent pas. Je vais trouver ça intriguant, ça va peut-être m'intéresser, mais si je ne suis pas astrophysicien, je vais me dire « Ok, chouette, je vais peut-être en parler au dîner, mais ça ne va rien changer dans ma vie. » Il y a d'autres idées qui sont performatives, qui nous impactent dans notre fonctionnement et dans notre capacité à avoir accès à nos compétences. Si par exemple, je ne sais pas, je pense que je suis nul en maths, ben, je vais avoir plutôt tendance à ne pas mettre le même effort pour réussir un exercice ou pour comprendre un exercice de maths que si je crois que je suis très bon en maths. C'est performatif, ça impacte pas juste mes compétences, mais surtout l'accès à mes compétences. Donc c'est même si j'ai les compétences, je vais pas essayer parce que j'y ai pas accès. Et la menace du stéréotype, c'est un peu ça. C'est une sorte d'effet qui impacte notre capacité à avoir accès à nos compétences, pas juste parce que ça vient de nous, mais aussi parce que ça vient de l'extérieur. Donc par exemple, si je reprends l'exemple des maths, si je crois que les femmes ne sont pas bonnes dans les matières scientifiques, ça va impacter la capacité des femmes à montrer leurs compétences scientifiques. Une expérience très connue qui a été faite, c'est de donner un même exercice à des classes de petits garçons et de petites filles. Et dans une classe, on va leur dire que c'est un exercice de dessin. Et dans l'autre classe, on va leur dire que c'est un exercice de géométrie, donc des maths. Et la classe à qui on dit c'est un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien que la classe à qui on dit que c'est un exercice de dessin, alors que c'est le même exercice. Et donc la manière dont on est perçu et la manière dont les rôles sociaux se mettent en place est quelque chose qui impacte objectivement notre fonctionnement.
Les IA conversationnelles, notamment avec leur modèle de langage, leurs neurones artificiels et même leurs hallucinations, peuvent se comporter comme des humains et endosser des fonctions sociales. Elles dialoguent, se trompent, s'excusent, plaisantent et parfois elles nous mentent. Toujours disponibles, elles donnent l'illusion d'une attention, d'une empathie, l'illusion du lien. Aujourd'hui, il nous faut apprendre à mettre en doute la confiance automatique que nous avons toujours accordée à la technologie.
Historiquement, on n'a jamais dû développer une méfiance envers nos machines. On est très bon à être méfiant envers nos congénères. On a ce qu'on appelle de la vigilance épistémique. Si tu viens et tu me dis « Ah, j'ai un nouveau produit miracle qui va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire », je me dis « Ok, il me bullshit et je vais me méfier ». Par contre, on n'est pas du tout habitué à se méfier de nos machines. Jamais je vais me dire que ma calculette me ment ou si je veux acheter un lit chez moi, je mesure la chambre et mon maître me dit que ta chambre fait, je sais pas, 2,10 m. Je dis « Ok, je peux faire rentrer un lit de 1,80 m ». Jamais je vais me dire « Le maître me ment ». Je pense que la grande différence avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle peut se tromper. Vous pouvez posez une question à Gemini, à ChatGPT, la même question trois fois de suite, vous n'allez pas avoir trois fois la même réponse, ce qui est impossible avec un maître ou une calculatrice. Et donc on a tendance à lui faire confiance, à croire que c'est aussi objectif que nos autres outils, alors que pas du tout. Quand vous posez une question à une intelligence artificielle, elle oriente sa réponse. Et donc la question devient, comment est-ce que je développe une méfiance, une vigilance, on va dire, pas nécessairement une méfiance, mais une vigilance épistémique envers ces machines qui, encore une fois, pour la première fois un peu de l'histoire, on a des machines qui peuvent inventer des choses qui ne sont pas vraies, etc. On voit aussi un phénomène, on n'a pas parlé de ça dans le documentaire, qui s'appelle le spiraling, où des gens rentrent dans une sorte de spirale parce que les intelligences artificielles actuelles aujourd'hui sont très flatteuses, où l'intelligence artificielle les flatte et leur disent qu'elles sont des gens spéciaux, qu'elles sont des personnes spéciales, etc. Et quand elles en parlent avec leur entourage leur dit bah, « on est tous un peu moyens ». Donc elles vont se couper de ces gens en se disant « elles sont jalouses, etc. » parce qu'elles vont faire plus confiance à l'intelligence artificielle en faisant cette supposition que parce que c'est une machine, bah, elle est plus honnête. Et c'est pas vrai du tout. Donc pour moi, un des cœurs de ces sujets, c'est comment est-ce qu'on développe cette vigilance envers des outils alors que historiquement on n'a pas vraiment l'habitude de le faire.